mieux de les réviser. Est-ce qu'il n'y aura pas d'examen dans cette lame-là ?
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ? Bande de voleurs.
Offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même. Même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir à toutes et à tous. A priori, on avait une voix en cabine qui était tout à fait éteinte, mais on lui redonne tout de suite la parole. Bonsoir.
Oui, voilà, donc pour la quatrième fois, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Ça y est, il est 19h03, il est largement temps de commencer ce Canu Info du vendredi. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons plein de choses à vous raconter. On va commencer par la rubrique locale avec des détails sur un cas d'utilisation de la reconnaissance faciale lors d'un procès.
Ensuite, on vous parlera du progrès qui offre une tribune au Réac de Lyon 2. Et puis on reste à Lyon et on vous parlera de 8 mois de prison ferme qui est la peine très lourde qu'a pris un gilet jaune cette semaine.
Au national, on vous parle de la grève à l'hôpital psychiatrique de Rouvray.
On vous passera également un petit reportage qu'on a pillé sur Radio Parleur au sujet de femmes de ménage de l'enseigne Ibis qui se sont rassemblées hier devant le cabinet de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.
Puis on vous parlera de Soumaya, un film qui a été plus ou moins censuré parce qu'il traite d'islamophobie.
Et ensuite, quand de faux Le Drian escroque des riches.
Alors les faux Drian, c'est les faux ministres. Hein.
Ouais.
Et puis ensuite, une grande rubrique nucléaire qui commencera par un titre incroyable. Fatigué d'être méprisé au détriment de la sécurité, les sous-traitants du nucléaire se mobilisent.
Et toujours dans la rubrique nucléaire, soudure suspecte sur des générateurs de vapeur. Les défauts et malfaçons continuent.
Des titres magiques, il en faut, il y en a un, une campagne d'iode pour faire passer la pastille nucléaire.
Aïe.
Puis on vous parlera de barbecue et de pique-nique. Eh bien oui, parce que c'est la manière qu'on a trouvée pour que la police nationale cesse de voir des suicides dans ses rangs.
Et puis on vous parlera de Macron et Monti, enfin d'accord sur la répartition des migrants et des migrantes.
Et puis un tout petit passage à l'international, c'est toujours les manifestations en Algérie, cette fois pour rejeter le scrutin qui doit se tenir le 12 décembre.
Et on aura un petit agenda sans doute, et on vous souhaite bonne écoute.
Sur Radio Canu, il est 19h05.
Reportage.
De la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a dit à les interjoints pendant la maison.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
C'est un sujet qui pourrait animer les tribunaux dans les mois et les années qui viennent. Peut-on condamner une personne sur la seule base de la reconnaissance faciale ? Il y a une audience mardi à Lyon, mardi 17 septembre. Cette audience a tourné court. Un homme était jugé pour le vol d'un camion qu'il aurait volé le 5 septembre dernier à Corba. Il avait été interpellé uniquement sur la foi des images de vidéosurveillance. Sa photo a été entrée dans un logiciel de reconnaissance faciale utilisé par la gendarmerie. Les images sont d'ailleurs peu nettes. Son nom est sorti et c'est donc sur la base de cet élément et uniquement de cet élément qu'il s'est retrouvé devant le tribunal. Alors l'avocat du suspect se moque un petit peu pendant l'audience de la procédure en cours et lui dit à son client « Vous avez un robot accusateur », c'est-à-dire qu'ils ont tiré la photo issue de la vidéosurveillance sur l'ordinateur. Et donc l'avocat de se demander sur quels critères va-t-on décider que c'est Monsieur H et non Monsieur Y, l'auteur des faits. Après avoir demandé au procureur de la République s'il disposait d'une expertise et sur quels critères fonctionne cette machine, la défense déplore qu'on lui ait répondu pour le moment, je n'ai aucune réponse. On en reste là et on garde cette idée en tête, c'est des choses qui pourraient revenir fréquemment ces prochains mois et prochaines années.
Et peut-être, de temps en temps, vous lisez Le Progrès. Et peut-être même lundi dernier, 16 septembre, et ben vous êtes tombé sur un exemplaire de Progrès et vous n'avez pas pu louper la une et une double page particulièrement réactionnaire qui était intitulée « Race et genre, une minorité bruyante ». Et bien en fait, Le Progrès a bien pensé de dédier cette double page au nouveau militantisme qui semble mener une véritable dictature à l'université Lyon 2. Les coupables, l'intersectionnalité, l'écriture inclusive et la pensée décoloniale. La stratégie de la journaliste a été en premier lieu de faire parler un jeune étudiant qui est présenté un peu comme un lanceur d'alerte et comme très courageux. Ce jeune homme avait tweeté effectivement un peu tout son chagrin lié à sa vie d'étudiant à Lyon 2. La journaliste nous explique qu'il est par ailleurs militant LR et adhérent du Printemps républicain. Voilà, pour souligner la neutralité de ce point de vue, tout en accusant la neutralité de l'université. Du coup, j'ai l'article sous les yeux, je voulais vous lire quelques phrases parce que c'est pas mal. Du coup, la journaliste parle carrément de comment ce jeune homme a pris son courage à deux mains. Et comme il donne des preuves de ce qu'il dénonce comme une pensée militante enseignée sans argument contradictoire. Du coup, elle cite la voix de cette personne qui dit « On condamne et on stigmatise les très à droite, mais les très à gauche, on les laisse faire impunément. » S'indigne-t-il. « Quand on parle des racisés en plein cours, personnellement, ça me choque. » La journaliste explique aussi que d'ailleurs, en mars 2018, l'université a accueilli la semaine des féminismes organisée par des associations étudiantes. Et l'affiche indique clairement la tenue d'un atelier en non-mixité, une pratique consistant à ne réunir que les personnes du même sexe ou de la même race supposée en excluant les autres. Et en fait, ce jeune homme conclut en disant « Ils ont pris le contrôle de la fac ». Tout en oubliant de féminiser, comme par hasard. Voilà, du coup, en substance, la supposée neutralité que devrait respecter l'université, selon ses journalistes et selon ce lanceur d'alerte, n'est pas tenue. Même si toute la faculté n'est pas concernée, il s'agirait plutôt des facultés d'anthropologie, de sociologie et de sciences politiques, comme par hasard les facultés où on est censé s'interroger sur la société. Et qu'il s'agit d'une minorité, très vite le ton de l'article sous-entend que c'est l'ensemble de l'université qui est touché. De manière confuse, elle reprochait la prise en compte des différents types de rapports sociaux, de classe, de race, de genre, pour comprendre les sociétés contemporaines. Après la théorie du gender, c'est le concept d'intersectionnalité qui est utilisé comme nouvel épouvantail par les réactionnaires, qui voudraient faire taire toute analyse, qui viendrait remettre en cause les fondements des rapports de domination. Comme on a vu, l'étudiant, il est un peu choqué par les ateliers non mixité. Et il se plaint notamment d'une séance de TD avec la lecture d'un article sur les mouvements féministes, tenez-vous bien, islamiques.
Voilà, scandale, scandale. Le tableau s'achève donc de cet article qui est tout plein de témoignages de voilà, étudiants, étudiantes qui donnent un peu leur avis là-dessus. Et ben, il s'achève par l'évocation des enseignants et enseignantes d'extrême droite à l'université Lyon 3 et son lot de négationnistes. Et la boucle est bouclée. Les ateliers non-mixité, l'écriture inclusive, l'analyse de la structure post-coloniale de la société française sont nos mises à pied d'égalité avec la négation des camps de concentration et d'extermination nazis. Ça nous fait un peu penser à quand G.G. Colomb compare les fachos du bastion social et les mouvements antifascistes. Voilà, du coup, scoop de Rébellion, un autre média que par contre on aime beaucoup beaucoup et qui est très neutre. Et bah scoop, les nouveaux militantismes existent bien réellement à Lyon 2, mais en fait c'est plutôt des militantismes de droite. Et bah par exemple, qu'est-ce qui se passe à Lyon 2 en ce moment et depuis un moment en fait, suite aux réformes néolibérales de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, des capitalistes notoires qui mettent leur bille dans les formations. Ainsi, au rang de partenaires du pôle finance et banque de la faculté des sciences économiques, on trouve pêle-mêle des entreprises peu connues pour leur positionnement progressiste. Bayer, Saint-Gobain, qui est un grand producteur d'amiante et de maladies professionnelles, GL Event, qui est régulièrement épinglé pour sa proximité avec Macron et Gérard Collomb.
Ça s'appelle Grand Lyon Événement, hein, quand même.
Ah, pardon. Petit cœur à GG Collomb.
Proximité.
Bah oui, oui, très proche. Et toute une tripotée de banques, Le Figaro et même Le Progrès. Des enseignants harceleurs et agresseurs qui bénéficient d'une impunité du fait de leur position dominante et qui sont donc très rarement sanctionnés. Mais où est donc cette dictature féministe que la droite et extrême droite aiment tant invoquer pour défendre le patriarcat ? Et enfin, d'ailleurs de grande actualité, une présidence de Lyon 2 qui a fait de la répression des mouvements étudiants et l'expulsion par la force une de ses spécialités. Jeudi dernier, par exemple, les flics ont été envoyés contre les personnes migrantes qui venaient juste d'être expulsées de l'amphithéâtre et qui venaient chercher un refuge pour une nuit sur le campus de Bron, sur lequel avaient pu rester, rappelons-le, plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, je ne me souviens plus exactement, il y a 2 ans. Et voilà, en fait, là, c'était l'appel aux flics immédiat. Voilà. Et du coup, la nouvelle du jour, c'est que le Figaro a vite pris le relais en dédiant une interview très complète à ce lanceur d'alerte qui, par contre, nous fait savoir, aïe aïe aïe, qu'il a reçu des menaces et des insultes sur les réseaux sociaux parce qu'il a osé parler. Et en fait, il dit aussi, ces gens se croient tout permis. J'ai l'impression que je suis une cible à battre parce que j'ai osé parler.
Wow, et on le remercie de son courage comme ce petit réac. Alors juste pour mettre ça en parallèle avec ce qui se passe réellement quand des réacs prennent la parole dans des facs, à Lyon on a aussi les universités Lyon Sud hein, qui forment des étudiants en médecine et dans lesquels on vous avait parlé il y a quelques mois en fait du professeur Frayeur, oui il a un nom incroyable, qui dans ses cours, qui était le responsable des sciences sociales de la fac de médecine et qui expliquait dans ses cours à quel point il existait des races humaines différentes dont certaines sont supérieures, il militait contre le féminisme radical, contre l'euthanasie et puis surtout dénoncer le fait que la culture française était aujourd'hui menacée par les droits des groupes minoritaires. Donc un type absolument d'accord avec en fait cet étudiant supposément lanceur d'alerte. Eh bien, Frédérique Vidal avait été alertée, ça avait un peu choqué à l'époque. Donc Frédérique Vidal, c'est la ministre de l'enseignement supérieur, et elle a envoyé donc un truc qui s'appelle l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. C'est un peu l'IGPN ou la police des profs, quoi, à peu près. Et donc ils sont venus voir ce qui se passait. Et contre toute attente, ils ont validé les propos de ce professeur en disant que c'était quelqu'un qui avait manifestement un goût pour la provocation. Ils ont défendu sa liberté d'enseigner et plutôt que de s'intéresser vraiment à ce professeur qui a des propos un petit peu discutables en cours, etc., ils sont surtout allés éplucher le passé et le travail de la journaliste qui avait fait le boulot pour sortir un petit peu les faits sur ce prof extrêmement réactionnaire et n'ont pas hésité non plus à tenter de déterminer l'identité des sources de cette journaliste qui, évidemment, est au mépris totale du protection des sources journalistiques. Donc voilà, l'IGPN des profs, ça se comporte comme l'IGPN normal, hein, ça fait que acter les mauvais comportements et globalement, c'est quand même plutôt les réactionnaires qui ont le vent en poupe à l'université française.
Et alors, quand le Progrès fait un dossier, souvent ça craint, et quand Lyon Mag fait une grève... Une